Alexandre Yacine, bonsoir.
Bonsoir Sandrine et bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation de témoigner de votre vie à l'antenne.
Écoutez, c'est un grand bonheur. Merci à vous, merci à Radio Maria pour cette invitation. Et peut-être, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on puisse commencer ce temps par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Amen. Notre-Dame, reine de la paix et de la joie, priez
Priez pour
pour nous.
nous.
Amen. Chers amis, c'est un bonheur de pouvoir partager avec vous les merveilles que la Vierge Marie a accomplies dans ma vie. Peut-être en préambule, je voudrais vous lire le message que j'ai lu quelques instants avant de me connecter à l'antenne de Radio Maria en prière, simplement en ouvrant le livre des messages de Medjugorje. J'ai lu le message suivant, 25 août 1988, donc message donné à Maria. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous à vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu le Créateur, car il vous a créé de façon si merveilleuse. Priez pour que votre vie soit un joyeux remerciement qui coule de vos cœurs comme un fleuve de joie. Petits enfants, remerciez sans cesse pour tout ce que vous possédez, pour tout petit don que Dieu vous fait. Ainsi, une bénédiction de joie venant de Dieu descendra toujours sur votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Mais c'est toujours un bonheur de pouvoir témoigner, c'est une grâce de pouvoir témoigner. C'est toujours une manière de glorifier Dieu, de rendre grâce, de remercier le Seigneur. Et puis c'est une manière aussi de pouvoir renouveler son oui d'une façon nouvelle, chaque fois. Je m'appelle Alexandre, j'ai 40 ans, j'habite à Paris. Je suis un pèlerin de Medjugorje et j'ai été comblé des grâces de Marie. J'ai été comblé de la surabondance de ses grâces et je suis heureux de pouvoir la remercier en témoignant aujourd'hui de tout ce qu'elle a accompli dans ma vie. Je suis français, mais je suis né d'un père russe. Et pour cela, j'ai été à la naissance baptisé orthodoxe. Et j'ai vécu une partie très importante de ma vie, élevée dans la tradition orthodoxe, dans l'orthodoxie. J'en retiens vraiment la beauté de la liturgie qui est très belle, ces chants merveilleux, cet ensemble, sens du sacré. Mais je dois dire que c'est une tradition qui ne correspondait pas à mon identité. Et en ce sens-là, Dieu, dans mon enfance, me paraissait assez lointain, parce que l'incarnation de la foi ne me correspondait pas pleinement. Et la liturgie russe orthodoxe n'était même pas en russe, c'était en slavon, donc je ne comprenais pas grand-chose, sinon rien du tout. Donc c'était très beau, c'était très sacré, mais c'était un peu lointain. Et j'étais très frappé par cette dimension très nationaliste qu'on connaît hein, dans l'Église orthodoxe, surtout dans l'Église orthodoxe russe, je suis bien placé pour le dire. Et puis bon, voilà, par une bonne dose d'orgueil aussi, hein, parce que il faut pouvoir le reconnaître aussi. Par exemple, lorsque il m'était arrivé, petit enfant, hein, de demander, mais comment se fait-il que Marie, quand elle apparaît toujours dans le cadre de l'Église catholique. Et on m'avait répondu, oh mais Marie apparaît dans le cadre de l'Église catholique parce que nous, les orthodoxes, on n'en a pas besoin. Et donc, j'étais resté avec cette parole, mais qui m'avait beaucoup marqué, parce que moi, je me disais que finalement, on avait tous besoin de la présence de Marie. J'avais une souffrance depuis tout petit, c'est que j'aimais Dieu vraiment de tout cœur et que je souffrais beaucoup que le monde n'aime pas Dieu. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais très fortement quand j'étais petit. Et donc, j'avais le sentiment d'être né à la mauvaise époque. Il y avait des temps où on aimait beaucoup plus le bon Dieu, où les choses étaient plus simples. On est dans un monde qui propage l'athéisme, qui enseigne l'athéisme. Et puis j'avais le sentiment aussi de ne pas être dans la bonne tradition, parce que je ne me reconnaissais pas tellement dans cette tradition orthodoxe. Jusqu'au jour où, et je vous assure que ça a été une révélation extraordinaire pour moi, j'ai réalisé, assez petit tout de même, que Dieu n'est pas russe. Alors je le dis peut-être avec une pointe d'humour, mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et la joie, c'était quelque chose dans notre famille qui n'était pas simple, vraiment pas simple. Ça ne coulait pas du tout de source. J'avais un père qui avait beaucoup de qualités, mais qui était très torturé. Et la joie, c'était quelque chose qui lui était assez étranger, malheureusement. Mais un jour, il m'a confié un secret, et il m'a dit, en grande confidence, qu'il avait un secret, et que quand il était malheureux, il priait Marie. Et cette parole m'a beaucoup marqué. Et bien sûr, j'aimais Marie, j'avais un lien personnel avec Marie dans la prière, mais à l'issue de ce secret, j'ai développé une toute nouvelle relation avec Marie. Et Marie, j'en entendais parler aussi beaucoup, et notamment de ses apparitions, dans le cadre de l'Église catholique, à Medjugorje, parce que j'avais un oncle qui s'appelait Cyril Obuano, qui a vécu pendant 7 ans à Medjugorje. C'était le frère de ma mère. Et Cyril, c'était l'oncle que je n'avais pas connu, parce qu'il était parti à Medjugorje alors que j'étais encore tout petit, et qui était parti sur un coup de tête. C'était l'original de la famille. Oh bon, il est parti sur un coup de tête. En fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a quitté tout pour aller à Medjugorje. Il pensait qu'il y resterait une semaine. Et puis, de fil en aiguille, il a trouvé le lieu tellement extraordinaire qu'il a décidé de rester un petit peu plus longtemps, un petit peu plus encore. Et puis, il est devenu ami des voyants, ami des villageois. Il est devenu le traducteur du père Iozo. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, il y est resté 7 ans. Et il a écrit sur le sujet, il a fait des conférences sur le sujet. Et moi, je suivais un petit peu les aventures de la Vierge Marie et de mon oncle, un peu à distance. Mais c'est quelque chose qui vraiment m'interpellait très fortement. Et ça m'a accompagné aussi dans le cadre du début de mon adolescence, où l'absence de joie a laissé la place à une déprime très forte, et puis même une forme de dépression. La joie n'était pas là. Et à 15 ans, alors que mon oncle Cyril était rentré de Medjugorje, j'avais fait sa connaissance, qui lui était rempli de joie, à 15 ans, j'allais vraiment pas bien, et donc il y a eu un débat familial pour savoir si on me mettait sous antidépresseur ou s'il fallait que j'aille à Medjugorje. Et puis, Dieu soit béni, j'ai été à Medjugorje. Et là-bas, j'ai vécu donc avec mon oncle ce premier pèlerinage qui a été très fort à plusieurs titres. D'abord, je me suis senti chez moi. On était en ex-Yougoslavie et la Yougoslavie donc, sont les Slaves du Sud hein, et donc même culturellement j'y ai trouvé une forme d'unité très forte pour moi et puis surtout j'y ai rencontré Marie très fortement. J'ai souvenir notamment de cette grâce d'une apparition à Ivan dans la petite chapelle à côté de Saint-Jacques où alors que nous étions très peu, mais j'étais agenouillé au fond de la chapelle. Et ce jour-là, je confiais à Marie ma vie, mais peut-être un peu hâtivement. Mais tout de même, ce pèlerinage avait eu comme premier fruit de me faire complètement oublier la déprime ou la dépression dans laquelle je me morfondais. Et donc, en 4 jours, j'étais revenu non seulement guéri, mais ivre de joie. Et ça avait non seulement fortement marqué ma vie, mais ça avait beaucoup marqué mon entourage aussi, bien sûr. Et puis petit à petit, la joie, elle est partie. Et un jour, alors que de nouveau, cette période de l'adolescence était difficile, sans joie, mon meilleur ami, alors qu'on devait avoir 17 ans, un peu avant nos 18 ans, je pense, vient me voir avec une grande révélation et il me dit « J'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé qu'on peut rater sa vie. C'est possible. On peut passer à côté de sa vie. Il y a des personnes à qui ça arrive, peut-être beaucoup. On peut rater sa vie. » Et cette réflexion m'avait incroyablement marqué. Et elle m'habitait et je n'avais de cesse de réfléchir non seulement aux conditions, aux critères de succès de sa vie, mais aussi aux moyens de pouvoir les atteindre. Parce que bien sûr, je ne voulais pas rater ma vie. Et comme à nouveau, j'étais pas très bien, mon oncle, qui cette fois-ci voulait une thérapie de choc, avait décidé, pas directement tout de suite de me renvoyer à Medjugorje, mais il m'avait envoyé chez l'un de ses amis aux États-Unis. C'était un ami qui, ils ont la particularité tous les deux, cet ami de mon oncle et Cyril, d'être des grands amis de la voyante Maria. Et un jour, alors que Maria était aux États-Unis en 1988, bien la Vierge a demandé à ce que soit créée une communauté là-bas, en Alabama. Et donc il y a, depuis 1988, un petit village chrétien, comme seuls les Américains sont capables de les inventer, qui vit les messages de Medjugorje de manière absolument extraordinaire. Et il m'a envoyé là-bas. On est au milieu des champs, on est au milieu de la forêt, il y a des chapelles, et puis c'est un lieu d'apparition, parce que Maria y va souvent, et Marie y a fait beaucoup de choses. Et elle a eu des paroles là-bas qui étaient très belles. Et donc j'ai passé l'été là-bas, comme dans une espèce de summer camp, mais complètement avec Marie. Et ça a été très fort, à tel point que le jour de mes 18 ans, alors que j'étais en vacances là-bas, j'avais dit à personne que c'était mon anniversaire. Et j'avais décidé de passer la journée tout seul en prière. Et j'avais été dans une petite chapelle là-bas, qui était très belle, et que j'aimais particulièrement, et dans laquelle je priais avec une intensité particulière. Et vraiment, je sentais fortement la présence de Marie. Et j'étais là-bas, et ce jour-là, j'ai fait la prière suivante. J'ai dit « Marie, aujourd'hui, moi, aux yeux du monde, je deviens adulte. Et aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Je te donne tout. Je te la confie, je te la remets. Je t'en fais le don pour que tu prennes tout. Mais je te demande seulement une chose. Je te demande que, à l'heure de la mort, parce que je t'ai tout donné, eh bien je ne regrette pas la vie que j'aurais menée. Mais pour cela, je te donne plein et entier pouvoir sur toute ma vie. Et s'il m'arrive de dériver, s'il m'arrive de pouvoir être dans des situations où je sors du chemin, du droit chemin sur lequel tu me conduis, ben je te donne plein et entier pouvoir pour m'y remettre, quel qu'en soit le coup. Et je ne mesurais pas très bien ce que je disais à ce moment-là, mais j'avais cette joie, cette paix dans le cœur de pouvoir savoir que maintenant, je ne m'appartiens plus et que j'appartiens complètement à Marie. Après, je suis rentré en France et j'ai commencé une vie étudiante qui a été une vie étudiante un peu compliquée. Je suis tombé dans à peu près tous les pièges qui m'étaient tendus et évidemment, à nouveau, la joie est partie à cause du péché. Et la joie partant, eh bien, à la fin de mes études, à nouveau, je suis retourné à Medjugorje et à nouveau, je suis retourné aux États-Unis. Là-bas, j'ai, à la fois à Medjugorje et dans ce lieu aux États-Unis, j'ai vraiment développé une relation d'amitié avec la voyante Maria. On est depuis de bons amis. Mais la vie suivant son cours, et en tout cas, c'est ce que je pensais, j'ai commencé une vie professionnelle qui était très très intense et très ambitieuse. J'étais attaché surtout à réussir, à m'accomplir, à m'élever aux yeux du monde. Et c'était pour moi le seul objectif de ces années-là. Et puis, il y a eu un vrai tournant en 2008. En 2008, alors que à nouveau, vraiment, là, Pourtant, la vie professionnelle se portait très bien, mais je n'avais aucune satisfaction. Et j'étais malheureux. Je suis retourné aux États-Unis parce que Maria y était. Et c'était en fait l'occasion pour moi de pouvoir revoir Maria, de pouvoir me remettre dans le droit chemin. Je sentais cet appel, je sentais évidemment ô combien ce besoin. Et arrivé aux États-Unis, donc Maria était là et il y avait des milliers de personnes qui étaient rassemblées parce que quand Maria va là-bas, l'apparition est publique dans un champ et donc il y a énormément, énormément de pèlerins américains qui s'y rendent. Et notamment dans le cadre d'une messe, qui était la première messe à laquelle j'assistais là-bas, il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies. Et je ne m'étais pas confessé. Je ne m'étais pas confessé et vraiment, je ne me sentais pas du tout digne de pouvoir communier. Et donc, vraiment avec une douleur énorme, je suis resté assis au moment de la communion. Je ne me suis pas présenté. Et vraiment avec cette grande douleur de ne pas me sentir digne, cette grande tristesse. Et je pense qu'il devait y avoir peut-être à cette messe peut-être 5000 personnes. Et à la fin de la communion, le principal célébrant a pris la parole. Et il a dit, il reste une seule hostie. Alors si quelqu'un parmi nous ne se sentait pas digne de pouvoir communier aujourd'hui, je lui donne spirituellement. Et ce jour-là, à ce moment-là, j'ai rencontré l'amour de Jésus. Comme Marie nous dit dans un message, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de bonheur. Alors, il m'est arrivé à d'autres moments de faire cette expérience sensible de l'amour de Marie, mais ce jour-là, vraiment, j'ai fait l'expérience de l'amour de Jésus. Et avant que je rentre en France, Maria, avec qui j'avais beaucoup parlé, beaucoup discuté dans le cadre de ce court séjour aux États-Unis, avec un amour extraordinaire, une douceur merveilleuse, m'a regardé dans les yeux, et alors que je partais et que j'étais venu lui dire au revoir, elle m'a dit « Alors, tu retournes à cette vie gâchée. » Et je suis rentré en France, et quand je suis arrivé à Paris, tout était différent. En 4 jours, tout avait changé. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était juste plus pareil. C'était complètement différent. 9 mois plus tard, j'avais tout quitté, tout, pour aller vivre dans cette communauté aux États-Unis, où j'ai vécu pendant 3 ans. J'ai vécu une purification très forte, et j'ai vécu une joie qui n'est pas de ce monde. Pendant 3 ans, nous avons été les témoins de miracles absolument extraordinaires. Le temps nous est compté, j'en citerai quelques-uns. Les enfants de cette communauté avaient un grand désir d'avoir des chevaux, mais il n'y avait pas d'argent pour acheter des chevaux. Et donc, ils ont entrepris de prier une neuvaine à Marie pour pouvoir avoir des chevaux. Et le 9e jour de cette neuvaine, il y a un homme qui s'est arrêté sur le côté de la route. Il avait une remorque avec des chevaux dans sa remorque. Et il a dit « Je vois que vous avez beaucoup de champs ici. Et j'ai 2 chevaux que je suis en train de conduire à l'abattoir. Mais je me dis que peut-être qu'ils seraient plus heureux avec vous. Ils sont quand même en bonne santé. » Et comme ça sont arrivés les 2 premiers chevaux. Et il y en a eu encore beaucoup d'autres après. C'est cet homme qui venait du Panama, qui était un homme très très riche, qui venait du Panama. Il est venu pour rencontrer Maria, justement, et être présent au moment de l'apparition, un jour où elle y était. Et il était très malade, il était avec toute sa famille, il avait un cancer du pancréas. Les médecins lui donnaient quelques jours, peut-être quelques semaines au maximum à vivre. Et pendant un long moment, Maria a parlé avec lui. Elle a parlé avec lui et elle a échangé avec lui. Et à la fin de cette discussion, il y avait une joie absolument inexprimable chez lui. Et tous, on se disait, c'est merveilleux, il a reçu une grâce de l'abandon. Et au moment de l'apparition, Maria lui a demandé de venir à côté de lui. Moi, j'étais un peu en face d'eux, sur le côté, en biais. Et pendant l'apparition, cet homme, d'une certaine manière, a été transfiguré. C'est-à-dire que de la lumière sortait de son corps. Quand il est rentré au Panama, quelques jours plus tard, il a fait à nouveau des examens. Et il était non seulement complètement guéri, mais sur l'image de l'IRM, on ne trouvait même pas la trace passée des cicatrices de son cancer. Ce qui était extraordinaire, c'est aussi la découverte des messages de Marie. Chaque jour, être guidé par un message de Marie, être guidé par cette proximité de Marie qui, elle, nous dit « Chers enfants, lisez mes messages tous les jours et transformez-les en vie. Chers enfants, seulement dans la prière, vous pouvez comprendre la profondeur des messages que je vous donne. Chers enfants, je désire vous donner des messages comme jamais auparavant depuis le commencement du monde. » Et quand on met en pratique cet appel de Marie de lire ses messages quotidiennement dans la prière, on est absolument émerveillé des grâces qu'ils produisent dans notre vie, des grâces de conversion, des miracles, de cette proximité de Marie qui nous conduit pas à pas, de cet accompagnement qu'elle nous donne, parce que dans ses messages, il y a tellement plus que ces 5 cailloux auxquels nous sommes tellement attachés. Alors j'ai souvent été à Medjugorje, dans le cadre de ce temps aux États-Unis. En fait, la moitié de mon temps, je passais à Medjugorje. J'y étais avec mon père, que j'ai emmené, qui était orthodoxe. Et alors que je l'emmenais là-bas, eh bien, c'était très difficile parce que lui était très malade. Il était extrêmement souffrant. Il marchait presque pas. Et quand nous y avons été, je lui partageais justement que notre tradition, tous les jours, c'était de lire un message de Marie, et quoi qu'elle nous dise, de le mettre en pratique. Et alors, quand il était là-bas, je lui ai confié ça, il me dit « Très bien, on va faire ça tous les matins. » Le premier matin, nous avons lu le message suivant, 30 août 1984. « Chers enfants, la croix aussi était dans le plan de Dieu lorsque vous l'avez construite. En ces jours tout spécialement, allez sur la colline et priez devant la croix. J'ai besoin de vos prières. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors lui, il a senti ça comme un appel. On a été sur Križevac, ça a été très compliqué. On a mis 7 heures pour monter. Mais quand on est arrivé tout en haut, il a mis son front contre la croix, il a sangloté, et puis il est redescendu, différent, il n'était plus le même homme. Bien sûr, par la suite, il a fait un cheminement très important, il est resté orthodoxe. Moi non. Évidemment, j'ai vécu pendant toutes ces années dans la foi catholique, depuis ma découverte de Medjugorje, mais je n'avais pas fait le passage. Et donc j'étais toujours orthodoxe, et finalement, ce n'est qu'en 2011 que je suis rentré dans la pleine communion de l'Église, comme on dit, au moment où je suis rentré en France, après ces 3 années entre Medjugorje et puis les États-Unis, qui ont été incroyablement formateurs. Et quand je suis rentré, ça a été un moment extraordinaire, ça a été un moment aussi très dur, un moment encore de purification, qui était par exemple combat aussi, et puis il y avait cette question, comment continuer à servir ? Marie, je t'ai tout donné, qu'est-ce que je fais maintenant ? Où allons-nous ? Et c'est Maria qui a dit, écoutez, faut créer quelque chose de neuf. Et donc, avec un grand ami, qui était aussi le parrain de mon parrain catholique, quand je suis rentré dans la pleine communion de l'Église, qui s'appelle Guy Stivenard, on a créé une association qui s'appelle Éclaireur de Paix, qui organise des retraites, des pèlerinages à Medjugorje, avec cette particularité qu'on veut vraiment approfondir les messages de Marie. On organise aussi des soirées de prière un petit peu partout en France maintenant. Et tous les jours, on médite, à travers notre newsletter, un nouveau message de Marie. Dans le cadre de ces pèlerinages, on a vu des miracles à la lecture de ces messages, à l'approfondissement de ces messages. Je vous en citerai un seul, qui est tout simple, qui est vraiment tout simple. C'est un pèlerin qui est devenu un grand ami, un pèlerin récurrent, un amoureux de Marie, qui, comme nous le faisions tous les jours, un jour lit un message de Marie. On était à peu près à moitié de son pèlerinage, et il lit le message suivant, 24 mars 1985. « Chers enfants, aujourd'hui, je veux tous vous appeler à la confession. Même si vous vous êtes confessés il y a quelques jours, je souhaite que vous viviez tous ma fête au profond de vous. Vous ne pouvez pas vivre ce jour saint si vous ne vous abandonnez pas complètement à Dieu. C'est pourquoi je vous appelle à la réconciliation avec vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Et lui, il s'était confessé effectivement la veille. Mais comme il a lu ce message et qu'il s'est dit que il allait prendre Marie au mot, il était à nouveau se confesser. Il a rencontré un prêtre extraordinaire qui avait un charisme tout à fait particulier et qui a permis une guérison absolument incroyable dans sa famille. On a été les témoins de miracles absolument inouïs. C'est par exemple cette apparition tout à fait particulière où toutes les personnes présentes dans la salle de l'apparition demandent à Maria s'il est possible de pouvoir, pendant l'apparition, déposer des intentions de prière à Marie, chacun d'entre nous, tous. Et Maria dit d'accord. Et donc, Marie apparaît. Maria est en extase, la Vierge est là, et chacun, individuellement, dépose son intention de prière dans un panier au pied de la statue qui avait été prévue à cet effet. Marie est restée longtemps, elle est restée jusqu'à ce que la dernière personne dépose son intention de prière dans le panier prévu à cet effet. Et ce jour-là, Marie a donné un message, et elle a dit « Chers enfants, je désire vous donner des grâces. Demandez-les. » Et donc c'est vrai que on a vécu de cela. On a demandé les grâces à Marie. Et on a été comblés des grâces de Marie. Il y a un moment, quelques temps après la création de ces pèlerinages, où s'est posée la question pour moi du discernement vocationnel. Qu'est-ce que je fais, Marie, je t'ai tout donné. Est-ce que je suis appelé au sacerdoce? Est-ce que je suis appelé à fonder une famille? Dans le fond, vraiment, plus profond de moi, j'espérais que je pourrais fonder une famille. Mais j'avais tout donné. Et donc, un jour, alors que je dînais avec ma mère, elle m'interroge et me dit « Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu deviens ?» Dans le fond, où vas-tu? Tu vas fonder une famille? Tu veux rentrer dans les ordres? Quelle communauté? Et je lui dis « Écoute, il y a cette jeune fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aline. Et soit je l'épouse, soit je deviens prêtre. » Aline, je l'avais repérée il y a longtemps, alors que je faisais une conférence en 2012, ou même peut-être 2011, à Paris, au Sacré-Cœur, sur Medj. Je l'avais vue dans l'assemblée, et c'était la fille de personne que j'avais rencontrée, je savais qu'elle devait venir. Il me semblait que c'était elle. Et au moment où j'ai posé mon regard sur elle pour la première fois, je vous assure que c'est vrai, je me suis dit, tiens, si un jour tu finis par épouser cette jeune fille, tu te souviendras toujours du moment où ton regard s'est posé sur elle pour la toute première fois. Mais on n'était pas très doués, pas doués du tout. Et donc moi, je priais beaucoup pour cela. Et elle aussi, de son côté, je ne le savais pas à l'époque, elle priait. Et c'était beaucoup de rendez-vous manqués. On n'arrivait pas à se retrouver jusqu'au jour où un jour, à Londres, dans des conditions complètement incroyables, on s'est rencontrés par providence, tous les deux, alors qu'on ne savait pas du tout qu'on était et l'un et l'autre ici, dans des conditions très particulières. On s'est rencontrés tous les deux dans l'église de l'Immaculée Conception à Londres, et donc à partir de ce moment-là, Marie nous a beaucoup aidés pour que finalement nous puissions nous fiancer, et puis nous marier, et puis aujourd'hui vivre avec le plus grand bonheur dans notre famille. Le plus grand bonheur, et puis avec ce désir vraiment de tout lui donner, tout lui donner. C'est Maria qui nous partageait qu'un jour, alors qu'elle était en Italie, dans le cadre d'une apparition, dans un stade, il y a des milliers de personnes qui assistent à l'apparition là-bas, et dans un stade, un jour, alors que Marie apparaît, elle est là, elle voit Marie qui se déplace dans la foule. Comme Marie se déplace dans la foule, Maria suit Marie dans la foule. Et Marie vient et elle prie au-dessus d'une famille, les mains étendues. Et Maria entend une voix qui répète sans arrêt. Marie, viens dans ma famille, viens dans mon cœur. Marie, viens dans ma famille, viens dans mon cœur. Et à la fin de l'apparition, elle se tourne vers cette famille, et elle témoigne de ce qui s'est passé. Et là, le plus jeune enfant confesse, ou plutôt confie, dit « Mais pendant toute l'apparition, moi, je priais cela, mais je le priais dans mon cœur. Je ne priais pas à voix haute. Et j'avais cette prière, Marie, viens dans ma famille, viens dans mon cœur. » Et c'est le sens de notre prière familiale. Marie, viens dans notre famille, viens dans notre cœur. Fais de nous des apôtres. Fais de nous des apôtres de ton amour. Fais de nous des apôtres de ta joie. Alors depuis, nous avons eu cette grâce de pouvoir aller très souvent, très très souvent à Medjugorje, d'être les témoins des miracles que Marie accomplit à travers la grâce de sa présence et aussi à travers les messages qu'elle donne. Ces messages qui sont une source de guérison absolument extraordinaire. Alors qu'est-ce que moi j'ai compris? Bah évidemment, j'ai compris que comme l'amour est une décision et pas seulement un sentiment, bah la joie aussi est une décision. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit « Le bonheur n'est pas une émotion, c'est une décision. » Bien sûr, c'est une grâce de la prière, et Marie nous le dit, encore dans un message, elle nous dit « Que la prière soit un baume pour vos cœurs, car le fruit de la prière est la joie. » Et on a vécu et nous vivons de cette surabondance, de ce débordement de joie, dans la foi, dans la prière. Et Marie insiste tellement, et nous le vivons, et nous le sentons, « Je désire que vous soyez heureux dès maintenant, dès ici-bas. » C'est Maria qui en témoigne beaucoup quand nous en parlons avec elle. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat de traduction sur le message que Marie a donné à Bernadette à Lourdes. Mais elle aurait dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Bon, peut-être qu'elle aurait dit « Je vous promets pas la joie de ce monde, mais celui du prochain. » Mais Marie, ici à Medjugorje, insiste en disant « Je désire que vous soyez heureux dès maintenant, dès ici. » Alors, chers amis, moi ce que je vous propose, tout simplement, c'est de pouvoir, comme nous en avons fait l'expérience, vivre cette proximité du cœur avec Marie aussi en lisant ses messages, en ne nous arrêtant pas à ces 5 cailloux que nous chérissons tellement, mais tous les jours de pouvoir lire nos messages. Très simplement, si vous le souhaitez, nous on a une newsletter quotidienne qui paraît chaque jour, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire, vous recevez un message différent de Marie. Et puis enfin, pour terminer, je vous dirais que c'est vrai que c'est une douleur pour beaucoup d'entre nous de ne pas pouvoir être à Medjugorje très souvent en ce moment. Je remercie Radio Maria pour cette émission qui nous permet de nous reconnecter à Medjugorje. À titre très personnel, j'aurai la grâce de pouvoir y être dans 3 jours. Donc encore une fois, si vous le souhaitez, sur notre site internet, vous pouvez déposer des intentions de prière. Et ça sera un bonheur immense de pouvoir les confier à Marie quand nous y serons dans 3 jours. Le site, il est très simple, c'est medjugorje.fr. Voilà, chers amis, j'espère que Marie vous comblera de son amour, de sa joie, autant qu'elle l'a fait dans ma vie. Et je crois que l'éternité ne sera pas assez grande, assez longue, pour pouvoir rendre grâce. Et en tout cas, alors que j'avais le sentiment, durant toute ma vie, avant de connaître Medjugorje, de m'être trompé d'époque, d'être né au mauvais moment, d'être né au moment où le monde n'aimait pas Dieu, le moment où la vie n'était pas drôle, eh bien grâce à Marie, grâce à sa présence, grâce à Medjugorje, et aujourd'hui, je me dis que nous vivons, et je rends grâce pour cela, le moment le plus extraordinaire, parce que nous sommes à l'aube du triomphe de son cœur, parce que Marie, notre mère, est là quotidiennement, et que dans ces temps qui sont difficiles, elle nous conduit quotidiennement pour que nous puissions être heureux. Moi, j'en fais l'expérience et je rends grâce pour cela. Merci à tous, chers amis.
Merci, merci beaucoup, Alexandre. Quel bouleversant témoignage, et en même temps, c'est bien de le rappeler. Vraiment, chers auditeurs, vivez les messages de la Vierge Marie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce très, très beau témoignage. Vraiment la joie. je suis bien bouleversée par votre témoignage. Merci beaucoup, en tout cas. Je pense que les auditeurs aussi, c'est très bon signe. Merci beaucoup. On vous rend votre liberté. Priez bien pour nous, pour Radio Maria, pour ses auditeurs, pour nous tous. On en a besoin que nous avancions sous le manteau de la Vierge Marie.
Amen.
Merci beaucoup. À très très bientôt. Merci Alexandre. Au revoir.